Bonjour, c'est Renaud Dely, vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
Non au Mercosur. Partout en France, les agriculteurs se mobilisent contre la signature de cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays d'Amérique du Sud, avec comme ici le soutien des élus.
Le Mercosur est aux antipodes, on va dire, de ce qu'on prône depuis toujours, notamment dans le département du Gers, à savoir des circuits courts, de la production de qualité. Il faut s'opposer.
Et c'est à 8000 km du Gers que se joue en ce moment l'avenir du Mercosur. Rio de Janeiro et le président brésilien Lula accueillent le sommet du G20. Parmi les invités, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, déterminée à signer un accord commercial en projet depuis une vingtaine d'années déjà.
Nous avons travaillé intensément sur l'accord de libre-échange avec le Mercosur. Et comme nous le savons tous, le diable est toujours dans les détails. La dernière ligne droite est la plus importante, mais elle est aussi souvent la plus difficile.
Difficile, car la France espère bien faire capoter la prochaine signature du Mercosur. S'il était adopté, cet accord permettrait aux pays d'Amérique latine d'écouler vers l'Europe, sans frais de douane ou presque, de la viande, du sucre ou du riz. Les 27 pourraient en échange exporter des voitures ou des produits pharmaceutiques. Un mauvais deal pour le modèle productif et environnemental européen, selon Emmanuel Macron, qui tente de rallier à sa cause d'autres pays comme l'Italie et la Pologne.
D'abord, je veux travailler avec tous ceux qui ont les mêmes préoccupations que nous, qui sont légitimes. On n'est pas isolés.
Alors, face à l'Allemagne et l'Espagne, qui militent au contraire à Rio pour le Mercosur, la France peut-elle obtenir gain de cause ? Sur fond de guerre commerciale avec la Chine et d'explosion des droits de douane annoncés par Donald Trump, quelle voie l'Europe doit-elle choisir ? Le libre-échange ou le protectionnisme ?
Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints pour nous y aider. À mes côtés, Paul Melun. Bonsoir Paul, bienvenue.
Bonsoir.
Essayiste, fondateur du think tank Souverain Demain. Vous avez publié un livre intitulé « Libérer la gauche ». Et selon vous, Paul Melun, l'Europe doit sortir du dogme libre-échangiste qui date d'il y a 50 ans. Aujourd'hui, c'est un contresens écologique, social et sanitaire que de nouer des accords comme le Mercosur avec des pays qui ne respectent pas les mêmes normes que nous. À vos côtés, Dominique Seux. Bonsoir Dominique,
bonsoir.
Bienvenue à vous, éditorialiste aux Échos et à France Inter. Selon vous, le Mercosur a une bonne tête de coupable idéal, hein, de bouc émissaire, dites-vous. On surestime le côté perdant de cet accord pour notre agriculture et on passe sous silence tout son intérêt commercial pour notre industrie en particulier. Et puis, à vos côtés, Elvire Fabry, bonsoir, vous êtes
bonsoir.
Politologue, bienvenue, chercheuse à l'Institut Jacques Delors, vous êtes en charge de la géopolitique du commerce et des rapports entre l'Union européenne et la Chine et les États-Unis. Selon vous, la France a un souci avec le commerce international parce qu'elle a poussé trop loin la désindustrialisation du pays en misant tout sur les services. Il existe aujourd'hui, dites-vous, effectivement des distorsions de concurrence, mais surtout avec la Chine. On va y venir dans un instant, mais tout de suite, pour ouvrir le débat, Marion Lourd, vous avez un chiffre, et c'est même le chiffre du jour.
Oui, le chiffre du jour, 90% de droits de douane qui seraient donc supprimés entre l'Union européenne et les 5 pays du Mercosur dans le cadre de cet accord. C'est une quasi-disparition des barrières douanières dans le cadre de cet accord qui est le plus important jamais conclu par l'Union en termes et de population et de volume d'échange. Alors, est-ce qu'il va y avoir de nouveaux débouchés pour nos produits ou est-ce qu'au contraire, c'est une concurrence déloyale pour nos marchandises ? En clair, bonne ou mauvaise nouvelle, Dominique Seux ?
Écoutez, ce que je dis, moi, c'est un bouc émissaire un peu facile des difficultés à régler nos problèmes agricoles internes. Et donc, tout le monde a un petit intérêt en ce moment, les pouvoirs publics, les agriculteurs, les syndicats agricoles, qu'il faut écouter. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des élections au mois de janvier qui les mettent en concurrence les uns avec les autres.
Mais vous ne me répondez pas vraiment. Bonne ou mauvaise nouvelle ?
Pas la question.
Alors, la réponse, c'est plutôt, non, c'est plutôt une bonne nouvelle de négocier ce type d'accord. Évidemment, il faut peut-être le creuser un petit peu plus, il faut peut-être mettre plus de garanties, mais au total, oui, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Paul Melun ?
Ben c'est bien, je pense exactement le contraire. Je pense que c'est une mauvaise décision. Je pense que les accords de libre-échange, mais je pourrais aussi citer le CETA, qui date maintenant déjà d'il y a quelques années, l'accord avec la Nouvelle-Zélande, sont des accords qui précisément affaiblissent la souveraineté de l'Europe et la souveraineté de la France. Et que,
eh bien,
je pense... et notre économie plus généralement, bien sûr. Et je pense que ces accords de libre-échange ont vécu et qu'aujourd'hui, il faut penser différemment les rapports mondiaux, qu'il faut penser différemment le commerce mondial, que du reste, à part l'Union européenne, à peu près tout le monde a compris qu'on avait changé d'époque, à commencer par la Chine et les États-Unis d'Amérique, que les barrières douanières ont augmenté de 20% ces dernières années dans la plupart des pays du G20. Et donc, aujourd'hui, il y a ce changement de paradigme et l'Europe doit être stratège et adopter des stratégies nouvelles, hybrides, entre libre-échange et entre protection de ses intérêts.
Elvire Fabry, dans ce cas précis, celui du Mercosur, donc 90% de droits de douane qui disparaîtraient de part et d'autre, hein, pour l'Amérique latine comme pour l'Europe. Est-ce que c'est mauvais pour les deux, bon pour les deux, ou est-ce que c'est ni bon ni mauvais ?
D'abord, il faut voir que l'abaissement de ces droits de douane, c'est sur le secteur industriel en majorité, et que c'est justement dans le secteur agricole qu'on maintient des droits de douane, donc ce n'est pas une annulation des droits de douane, et qu'ils sont en plus capés par des volumes sur lesquels s'appliquent ces réductions, donc on minimise le risque pour les filières les plus vulnérables, et il faut dézoomer sur la préoccupation qu'on a aujourd'hui avec une agriculture, ça a été dit, qui a un problème structurel de compétitivité, et en particulier la filière bovine, et dézoomer sur tous les intérêts qu'il y a dans cet accord, parce qu'il y a des intérêts dans l'industrie, et on a besoin aujourd'hui d'avoir une filière automobile européenne qui est soutenue par
de
tels accords.
Donc ça peut être favorable à l'Europe, plus du côté, effectivement, des productions industrielles.
Non, pas que. C'est-à-dire qu'au sein du secteur agricole, vous avez des filières qui attendent d'avoir ces débouchés, qui elles-mêmes ne vont pas bien. Je pense à toute la viticulture qui a subi des problèmes climatiques et qui a des intérêts offensifs. Tous les produits laitiers aussi ont intérêt à exporter davantage. La filière porcine, la FNSEA, on parle pas beaucoup, mais elle est pas du tout en contre. C'est la filière bovine.
Alors, vous disiez justement, vous évoquez la filière bovine, vous disiez qu'il y a des avantages aussi à vous écouter pour certaines filières de notre agriculture, mais ce n'est pas ce qu'on entend de la part de la plupart des organisations syndicales agricoles, de toutes même. Est-ce que, Anna, la viande française, comme on l'entend parfois, va être chassée de nos assiettes si le Mercosur est signé ?
Mais en tout cas, c'est ce que Xavier Bertrand a laissé sous-entendre hier. Nos assiettes ne sont pas des poubelles, a-t-il déclaré, le président de la région Hauts-de-France. Et il laissait sous-entendre que la viande d'Amérique latine de mauvaise qualité pourrait remplacer le bœuf dans nos assiettes. Mais maintenant, si on regarde précisément l'accord tel qu'il est rédigé en l'état, il fixe des quotas, des volumes dont vous avez parlé. L'Union européenne aurait la possibilité d'importer 304 000 tonnes de viande supplémentaire en provenance des pays du Mercosur, du bœuf, du porc et des volailles. Petite parenthèse, l'Union européenne en produit environ 40 millions de tonnes par an, toutes viandes confondues. Et donc, dans ces 304 000 tonnes, il y aurait donc 99 000 tonnes supplémentaires de bœuf, ce qui ne représenterait qu'1,2% de ce que consomment les Européens. Et 180 000 tonnes de volailles, on va les voir s'afficher, ce qui représente 1,4% de la consommation de volailles, là aussi des Européens. Maintenant, à la question, la viande d'Amérique latine va-t-elle remplacer la viande française ? La réponse est non. Les volumes qui sont apportés par la France ne pèsent pas suffisamment lourd. Par exemple, le bœuf que l'on retrouve dans nos assiettes provient essentiellement des Pays-Bas, de l'Irlande et du Royaume-Uni. Et pour la volaille, eh bien, elle vient de Pologne, de Belgique, de Hongrie ou de Tchéquie. Dominique, ces quotas de viande qui sont prévus dans l'accord, est-ce qu'ils vous paraissent justes, équilibrés, ou alors est-ce que c'est déjà trop ?
Non, mais on voit bien que ce n'est pas trop, justement. On voit bien que c'est 1%, 1,4%, 1,6%. Le marché ne va pas être totalement déstabilisé par 1% d'importation en plus. On voit bien d'ailleurs que les chiffres qui circulent dans le débat public sont quand même farfelus. Évidemment, les agriculteurs disent qu'il faut aller regarder dans le détail de chaque bovin, c'est les aloyaux qui posent problème. Mais à force de sophistiquer, on perd la vision d'ensemble. Le commerce international, il est ni bon ni mauvais. Ça dépend du type d'accord qu'on passe. Quand on regarde les relations entre la Chine et l'Europe, aujourd'hui, ça ne va pas. Il faut mettre des barrières. Entre les États-Unis et la Chine, manifestement, ça ne passe pas. Mais entre l'Amérique latine et l'Europe, nous sommes excédentaires. Donc, c'est complètement idiot de vouloir se priver de marché. Alors, après, on entend bien qu'il y a des gagnants et des perdants et qu'évidemment, les perdants râlent. Est-ce qu'ils perdent beaucoup ? C'est ça, le sujet. Est-ce qu'ils perdent énormément ? J'ai le sentiment qu'ils ne perdent pas tant que ça, à condition, évidemment, qu'il y ait un certain nombre de garanties. Vous savez, on avait entendu hurler sur le CETA.
Hein, l'accord alors, signé avec, avec
oui,
le Canada.
On en parle un petit peu moins. On n'en parle plus beaucoup, quasiment plus, aujourd'hui.
Pourquoi ?
Et, bah, parce qu'en fait, il ne s'est pas passé du tout ce qui était craint. C'est-à-dire que le marché européen n'a pas été totalement submergé. J'entendais mon voisin qui disait « plus personne ne conclut d'accord ». Non, les routes de la soie... De libre-échange, etc. Les Chinois proposent. Les Chinois proposent à l'Amérique latine des grands accords. Il y a les routes de la soie.
Enfin, les Chinois multiplient les accords.
Précisément, les Chinois multiplient les
accords. Si l'Europe ne signe pas, la Chine va remplacer l'Europe.
Oui, bien sûr, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il faut le faire.
La vraie menace pour les agriculteurs, est-ce qu'elle ne vient pas plutôt des autres pays de l'Union européenne, comme l'Ukraine, la Pologne, la Hongrie ?
Il y a plein de menaces pour le modèle agricole. Et il y a une chose avec laquelle j'étais d'accord qui était dite, c'est que avant de se plaindre du Mercosur, il faut d'abord réfléchir, et en même temps réfléchir, comme dirait l'autre, à notre modèle agricole et à ce qu'on veut comme agriculture pour demain. Vous parliez de compétitivité. Est-ce que c'est vraiment l'avenir d'une exploitation agricole française d'être compétitif, par exemple, avec un fermier des plaines du Midwest qui, aux États-Unis, a des dizaines et des dizaines, voire des centaines et des centaines d'hectares ? Non. Est-ce que c'est la vocation d'un éleveur bovin en France d'être compétitif avec du bœuf argentin et de faire des fermes à 1000 vaches ? Non aussi. Pourquoi ? Parce que c'est un non-sens écologique, parce que c'est un non-sens social, parce que la façon dont on produit de l'agriculture en Amérique latine, ça fait de la déforestation
parce
dans l'Amazonie,
aussi,
et que c'est une catastrophe.
Ben, parce que l'agriculture
française
n'est pas compétitive.
Moi, je pense qu'il faut assumer d'avoir une compétitivité qui ne soit pas une compétitivité basée sur les prix. Évidemment, avec nos normes sociales, avec la façon dont on paie nos ouvriers en France, nos ouvriers agricoles, avec ce qu'on met comme intrants dans nos sols, on ne va jamais être compétitif avec un pays qui fait du moins-disant social,
si
du moins-disant écologique, je termine juste là-dessus. Donc, on ne sera pas compétitif. Et même, je vais aller plus loin, il n'est pas souhaitable qu'on le devienne et qu'on aille dans une agriculture agro-industrielle dans laquelle on va perdre notre âme, perdre l'environnement
si
et perdre des emplois.
Mais si c'est 1% de glissement du marché, est-ce que ça ne
mais c'est une
vaut
porte
pas
d'entrée.
La peine
si c'est, ben
non, mais
y a, si, c'est si petit,
attendez,
pourquoi le nouer alors
y a, non, mais il y a déjà des importations, on est bien d'accord.
Absolument,
hein,
donc, déjà beaucoup.
On rajoute 1%.
On est de moins en moins
en échange, s'il y a les fromages, les vins, les matériels électriques, les machines,
les voitures,
ça vaut peut-être la peine.
Pour ce qui est, ils sont pas les seuls, puisque pour ce qui est du Mercosur, tous les responsables politiques français, hein, Emmanuel Macron, Michel Barnier, la droite, la gauche, le RN, tout le monde y est hostile. Et cette hostilité de la France au Mercosur, elle ne date pas d'hier. Ça fait plusieurs années qu'elle s'y oppose. Et pourtant, regardez, à l'origine, il y a 25 ans, par la voix de son président de l'époque, la France était plutôt enthousiaste.
Pas de tourisme pour les 48 chefs d'État d'Europe et d'Amérique latine réunis pour la première fois à Rio. Ce sommet intervient alors qu'on est tombé d'accord de part et d'autre pour engager des discussions en vue de supprimer progressivement les barrières douanières entre l'Europe et toute l'Amérique latine.
Nous avons tous, je tiens à ce qu'on le sache bien, la même volonté qui est celle de nous orienter vers un libre-échange qui est dans la nature des choses. Et la France, comme l'Union européenne, comme d'ailleurs le Mercosur, comme l'Amérique du Sud et la Caraïbe, nous sommes tous déterminés à progresser le plus vite possible dans cette voie.
Alors Elvire Fabry, on entend le discours de Jacques Chirac, hein, l'ouverture à la concurrence, c'est dans l'ordre des choses, c'était il y a 25 ans, on a l'impression que c'était la préhistoire. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ?
Ce qui a changé, c'est qu'on a eu au printemps dernier un Sénat qui a voté à 82% contre le CETA, alors que tout le bilan du CETA, 7 ans après son entrée en vigueur provisoire, montre que tous les feux sont au vert, que l'Europe gagne plus que le Canada, que le Canada voudrait renégocier.
C'est toute une philosophie qui a changé quand même.
Pourquoi ?
La France.
Pourquoi les politiques
français ? C'est surtout qu'il y a eu un alignement là de toute la classe politique française et qui est difficilement explicable et qui est complètement anachronique par rapport à la transformation du contexte international.
Il y a une explication. C'est certes, c'est la Chine en fait. Hein. C'est les relations commerciales déséquilibrées entre la Chine et le reste du monde. C'est ça qui fausse tout. Mais ce n'est pas parce qu'il y a un problème avec la Chine qu'il faut régler, y compris par des barrières douanières, qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain.
Non mais
qu'est-ce qui a changé ?
C'est très intéressant de reprendre un discours de la fin du XXe siècle, parce qu'effectivement, le libre-échangisme débridé et la mondialisation telle qu'elle était présentée, c'est-à-dire comme une chance à laquelle il fallait mettre aucune barrière entre les années 80 et les années 90, ça montre bien que c'est le modèle d'hier et qu'aujourd'hui, il faut penser les choses différemment. D'ailleurs, c'est le réveil des empires sur le plan de la diplomatie. On le voit avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis d'Amérique.
Mais
c'est pareil en économie.
Pourquoi faut-il le changer différemment ? Parce que les autres le pensent différemment ? La Chine, les États-Unis aussi ?
Parce que
sont convertis au protectionnisme ?
Parce qu'aujourd'hui, ça somme comme un anachronisme de se dire qu'il est pertinent d'aller faire croiser des bateaux dans toutes les mers du monde, d'ouvrir des routes immenses, d'aller déforester à des milliers de kilomètres pour que se promènent des morceaux de bœuf qu'on peut très bien produire sur le plateau de l'Aubrac, par exemple, en Aveyron. C'est un non-sens total au plan écologique. écologique. Tous les gens qui signeraient dès demain cet accord et qui après nous diraient « moi je suis écologiste et je veux moins d'émissions de gaz à effet de serre » ne sont pas très cohérents.
Alors comment on fait pour les matières premières qu'on doit mettre dans les voitures électriques, par exemple? Comment on fait?
Il y a bien des choses que nous, en Europe, nous n'avons pas parce que notre géologie fait qu'on ne les a pas.
C'est un enjeu, ça, le lithium qui, justement, est en Amérique latine.
Bien sûr.
Alors, est-ce que c'est si anachronique que ça, Marion?
Eh bien, pas pour tout le monde, apparemment, puisque la France se cherche des alliés pour faire échec, pour essayer de faire échec au Mercosur. Et elle s'est notamment peut-être alliée l'Italie, mais par contre, l'Allemagne, par la voix de son chancelier Olaf Scholz, depuis le G20 au Brésil, semble complètement conquise par cet accord.
L'Allemagne et l'Espagne. Freihandelsabkommen Mercosur jetzt nach über 20 Jahren mal endlich fertig kriegen. Wir brauchen mehr Freihandelsabkommen. Die Welt verändert sich und wenn wir weiter mit aller Welt ökonomisch im Austausch sein wollen, dann müssen wir als Europäische Union handeln.
Alors Paul Melun, c'est vrai que l'Europe, l'Union européenne, c'est 6% de la population mondiale. On est tout petit face aux États-Unis et à la Chine. Est-ce qu'on n'a pas quand même un peu tort de vouloir se couper de tout ça, peut-être de risquer de sortir du jeu en ne rentrant pas dans ce type d'accord?
Pour le moment, on a plutôt fait le contraire. C'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment que l'Union européenne a été assez naïve par rapport à un certain nombre d'autres pays, d'autres ensembles dans le monde qui ont eu à cœur de protéger leurs intérêts, de protéger leurs frontières, de développer des secteurs de pointe. Nous, en Europe, nous sommes à la traîne sur le numérique, par exemple. Nous sommes à la traîne, nous avons délocalisé, nous avons tertiarisé nos économies comme un seul homme. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Non, mais il faut, à mon avis, il faut une stratégie hybride. Il ne s'agit pas, vous parliez tout à l'heure des composants, par exemple, pour les batteries, de certaines matières premières. Il ne s'agit pas d'être, si vous voulez, dans une vision binaire des choses où c'est ou tout fermé ou tout ouvert. Mais il s'agit de réfléchir en stratège avec un modèle hybride où, effectivement, on peut aller chercher certaines choses que l'on n'a pas sur notre sol et exporter certaines choses que d'autres n'ont pas. En revanche, de grâce, sur un certain nombre de choses, quand je vois les importations de soja, etc., certaines matières agricoles avec la déforestation, j'y reviens parce que c'est quand même pas un petit sujet en Amazonie et qu'on est tout content de les avoir, qu'après on se réveille en disant mais oui, mais on importe beaucoup plus de volailles aujourd'hui qu'il y a 20 ans, beaucoup plus de bœuf qu'il y a 20 ans. Je dis que c'est un cycle qui ne fonctionne pas.
Vous marquez un point sur la déforestation. Mais il y a un moyen quand même assez simple de la contrôler. Vous savez, chaque agriculteur en France est contrôlé 3 fois ou 2 fois par semaine par un système de satellites qui s'appelle Télépac, qui reçoit des images sur son téléphone. On peut faire la même chose au Brésil. C'est très facile, tout ça. Donc, il ne faut pas non plus se dire que les choses sont impossibles.
Et sur la déforestation, l'Union européenne a passé une réglementation où on interdit les importations de biens issus de la déforestation. Donc, les choses avancent.
La traçabilité n'est pas évidente.
Parler du libre-échange, c'est complètement anachronique. Tous les accords commerciaux qui ont été signés ces dernières années, ils ont au contraire une assiette réglementaire, des conditions, une défense de la propriété intellectuelle. Au contraire, c'est un encadrement du commerce international. Et si on veut peser face à la Chine, on a besoin d'aller chercher la demande, la consommation aussi, qui baisse dans l'Union européenne.
Justement, vous évoquez, Elvire Fabry, la Chine et la concurrence internationale, la Chine ou les États-Unis, avec en plus le prochain retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, et donc l'hypothèse de nouvelles taxes douanières, d'une inflexion protectionniste. Est-ce que l'Europe n'a pas péché un petit peu, peut-être par naïveté, justement par adhésion au libre-échange par principe, comme on l'a peut-être encore entendu à l'instant dans la bouche de Olaf Scholz? Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas faire preuve peut-être justement d'un peu moins de naïveté et accepter de mettre un certain nombre de taxes sur certaines productions pour mieux se protéger qu'on ne l'a fait jusque-là, notamment vis-à-vis de la Chine et des États-Unis?
On a été myope sur les pratiques chinoises et notamment sur toutes les subventions et tout ce qu'on appelle le capitalisme d'État, c'est-à-dire un État qui soutient complètement son économie et qui l'abreuve de capacités de financement, mais aussi des choix stratégiques d'innovation dans les technologies, des objectifs précis. Donc là, on a
s'est
été...
Trompé.
Bah là-dessus, oui, on a compté beaucoup trop sur un fonctionnement de marché équilibré selon des règles justes. Donc il s'agit d'ajuster notre stratégie. Mais se dire qu'aujourd'hui, on pourrait non seulement se fermer ou s'extraire de ce commerce international, ça n'a aucun sens. On ne peut pas avoir un regard binaire sur le sujet. En revanche, c'est vrai que conditionner davantage l'accès à notre marché intérieur avec des objectifs, lorsqu'on pense aujourd'hui aux investissements chinois en particulier, il faut qu'il y ait des conditions pour que ça puisse bénéficier aux entreprises européennes qui ne viennent pas simplement assembler dans l'Union européenne.
Donc Dominique Seux, il faut une dose de protectionnisme? Un peu, beaucoup, passionnément?
Non, mais encore une fois, c'est comme les chasseurs. Il y a les bons et les mauvais chasseurs.
Ça marche avec le cholestérol.
Voilà, ça marche avec le cholestérol. Donc, il y a les bons et les mauvais accords. Dans ce cas précis,
Donc c'est équilibré. Il y a le bon et le mauvais protectionnisme. Ce n'est pas un gros mot, protectionnisme.
Mais non, mais
pour vous,
non,
c'est pas un gros mot.
Il n'y a pas de gros mot, Renaud Denis. Il n'y a pas de gros mot. Bien sûr que dans les relations. Vous savez, vis-à-vis de la Chine, il faut évidemment être moins naïf. Les États-Unis ont décidé, vis-à-vis de la Chine, d'être moins naïf. Et ils attaquent maintenant l'Europe parce qu'ils ont un énorme déficit commercial avec nous. Bon, là, les murs sont en train de remonter. Mais dans le cas précis du Mercosur, on n'est pas du tout dans le même cas de figure.
Et il faut penser à l'inflation. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de monter les droits de douane, et ça va être le cas aux États-Unis, et on va le voir dans les années qui viennent, ça a un coût pour les consommateurs. Est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin aujourd'hui ? Il faut calibrer un peu le débat.
Et puis il y a un truc quand même, on parle matin, midi et soir en France de la réindustrialisation. Et au moment, premier sujet qui arrive, accord commercial, plus personne ne parle de l'industrie, on parle que de l'agriculture. Il faudrait savoir à ne pas changer son chancelle.
Mais Paul Melun, vous entendez qu'il peut y avoir des bons et des mauvais accords, comme le dit votre voisin ?
Bien sûr, moi je n'ai pas une vision, si vous voulez, binaire là-dessus. Je dis juste une chose, c'est que l'Union européenne, et je le redis, a pêché par naïveté ces dernières années, que les Chinois ont eu l'intelligence de développer, par exemple, leur marché intérieur, tout en protégeant leurs frontières, tout en innovant. Pendant que nous étions dans l'inflation normative en Europe, ils ont la capacité de le faire. Mais enfin, l'Europe, ce n'est pas non plus un petit pays ou une petite ensemble dans le monde. C'est un marché important, c'est 500 millions de consommateurs, c'est un certain nombre de pays qui ont des savoir-faire extraordinaires, très anciens, c'est des grandes écoles de très haut niveau. Donc, je me dis, et il y a un peu la même vision aussi parfois en France quand on dit on peut faire ça comme nation en français, on vous dit oui mais c'est pas grand chose. Mais il faut sortir aussi de ces influences un peu négatives qui voudraient qu'on soit au bout du rouleau, etc. Précisément, si l'Europe veut endiguer son propre déclin, il faut qu'elle soit ambitieuse, il faut qu'elle ait des géants du numérique, il faut qu'elle ait une agriculture de haut niveau, et on peut avoir une agriculture de haut niveau avec une montée en qualité, avec de l'agriculture biologique, avec des circuits courts, avec des circuits de proximité, sans aller s'aligner sur ce que font d'autres qui filent du bœuf aux hormones. Ce modèle-là, en tout cas, il n'a aucun sens.
Le bœuf aux hormones, il ne doit pas entrer. Il y a un problème de contrôle, peut-être.
Il entrera quand même, parce qu'il n'y a pas de traçabilité à part en Europe.
La législation européenne interdit.
Il y a des contrôles.
Il n'y a pas de traçabilité.
Il y a un audit qui vient d'être...
La preuve, d'ailleurs...
Les audits, ils ne marcheront pas, parce qu'il n'y a que l'Uruguay, dans les pays du Mercosur, qui peut tracer de la naissance à l'exportation son bœuf. Tous les autres ne peuvent pas. Donc, vous allez avoir du bœuf qui va arriver avec, effectivement, des problèmes
résiduels importants. La semaine dernière, l'Union européenne a dit... Top, je crois que c'était des génies, il y avait un problème.
Alors, 30 secondes chacun pour faire un petit pronostic, sans jouer les Madame Irma, mais est-ce que vous pensez, Elvire Fabry, qu'à l'arrivée, le Mercosur trouvera une nette majorité en Europe et que la France sera isolée, ou est-ce qu'à l'inverse, elle peut réussir à faire capoter, comme elle en a l'intention, en tout cas comme elle en affiche l'intention, la conclusion de cet accord ?
Le ministre de l'Agriculture italien vient de donner un signal d'alignement sur la position française. Ça n'est que le ministre de l'Agriculture. J'aimerais entendre le ministre de l'Industrie. On verra la position de Meloni. Pour le moment, on n'y est pas. Et j'ai envie de dire, au-delà même du cas du Mercosur, ce qui est embêtant, c'est la façon dont le débat dans la classe politique française ne s'ouvre pas assez à cette transformation du contexte international.
Paul Melun, un mot, la France est toute seule ou pas ? Elle est isolée ou pas ?
Non, la France n'est pas isolée. En plus, la France est un grand pays et la France aura des alliés, peut-être les Italiens, peut-être les Polonais, peut-être M. Orban, je ne sais pas. En tout cas, je loue le courage de Michel Barnier sur cette question.
Le mot de la fin, la France a raison, seule contre tous ?
Non, vous me demandez un pari. Alors, je vais répondre à votre pari. Moi, je pense qu'il sera légèrement décalé, la signature sera légèrement décalée. Michel Barnier a demandé à la Commission européenne, selon mes informations, un rapport de 1 à 2 ans, elle obtiendra, à mon avis, quelques mois.
Eh ben voilà. Merci en tout cas à tous les trois. On a fait avancer le débat, puisque Paul Melun est un petit peu libre-échangiste, Dominique Seux un petit peu protectionniste, et Elvire Fabry un petit peu en même temps les deux. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.